Jean-François, cette semaine, tu interviews deux entrepreneurs UX du marché montréalais, si je ne me trompe pas. On parle d'Alain Robillard-Bastien puis de Domenico Micheletti.
Oui, ça a été une super entrevue. Franchement, on a une bonne idée, là. Écoute, la plupart des gens dans l'entrevue entre moi et Domenico et Alain, on a plus de 20 ans d'expérience dans le marché montréalais, donc ou du Québec en général, là. Et on a couvert des belles choses. Effectivement, l'évolution du marché, hein, qu'est-ce qui a grandi, comment les gens. Et on dit ça, mais toi et moi, même on en parlait en pré-introduction, à quel point le marché a évolué, mais le marché reste encore Donc, on a encore beaucoup de choses à faire comprendre aux gens dans l'industrie informatique. Puis ça, c'est des choses aussi là, dont on a parlé dans l'entrevue.
Intéressant parce que, comme tu le disais, on le constate, c'est le UX. On n'est pas toujours sûr, même si tout le monde est pour la vertu, et personne ne peut être contre, mais on n'est pas trop sûr que c'est mis en application. Puis j'en parlais dans un billet récemment dans Les Affaires, et les informaticiens notamment, pas encore pour taper sur eux autres, mais plus pour souligner l'importance du rôle qu'ils ont dans la transformation numérique. Puis dans l'expérience employée aussi. Il est important que les entreprises aussi soient conscientisées à l'importance du UX. Et souvent, ils ont tendance à le repousser en se disant, on n'a pas le temps de faire ça coûte trop cher, ça apporte rien. Ils se trompent, toi puis moi, on le sait. Alain puis Domenico, là, on le sait tous. Mais je pense qu'il y a une réflexion à poursuivre là-dessus. Donc, on écoute cet entretien.
Allons-y. Je suis bien content de vous avoir avec moi ce matin pour qu'on puisse parler un peu de l'état de l'industrie du UX à Montréal. Il faut quand même dire que vous êtes dans l'industrie depuis vraiment très longtemps. Alain, facilement depuis 1998 quand tu étais chez Bell, si je ne
Oh,
m'abuse.
ça, avant ça, j'étais chez
Avant.
Focus Group, Idéactif, ensuite chez César, après chez Bell. J'ai commencé, en fait, au milieu des années 90 au Centre de recherche informatique de Montréal
C'est
en
vrai.
utilisant, en facteurs humains, en fait. Donc, ça fait un bail à l'époque, et sur le web naissant, quand Netscape est encore en bêta.
Oh, ça nous remonte.
Ça
Et pour autant qu'on pouvait faire de l'accessibilité sur ces choses-là, oui, effectivement. Et maintenant, ErgoWeb qui existe depuis combien d'années maintenant?
ErgoWeb 2011. Donc, ErgoWeb, au départ, ça a été un projet solo. Et puis, je me suis dit au début que ça allait être fantastique, que j'allais pouvoir organiser mes affaires un petit peu plus comme je voulais. Je me suis complètement trompé parce que être indépendant, ça veut pas dire que. En fait, tu peux l'avoir. David va pouvoir nous en parler, Domenico. En quelque part, c'était vraiment un projet solo. Puis, très rapidement, ben là, je me suis questionné, à savoir, même d'un point de vue entrepreneuriat, est-ce que je veux rester à mon compte, gérer mes projets? C'est un trip, mais là, j'ai le goût de retoucher à des projets plus complexes, de plus grande envergure. Et puis, il y avait des projets que je refusais, j'aimais pas ça refuser. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai trouvé ma partenaire, Gabriel Granger, mon associé. On a commencé à engager, et puis pour en faire une pratique en tant que telle là, en UX au fil des années.
Et ça, avec Gabriel, ça fait depuis 2014.
En fait, on a commencé à
2016.
travailler ensemble très, très vite, en fait, parce que les premiers contacts qu'on a eus, c'est en 2012.
2012,
Puis,
oui.
oui, en 2012, et puis ça fait 5 ans maintenant qu'on est associés. Un peu plus.
Wow, félicitations. Domenico, ton parcours, un petit peu?
Hey boy, c'est drôle parce que moi, je suis comme rentré dans le UX par la bande. J'ai étudié en communication. J'ai fait ma maîtrise en communication justement à l'Université de Montréal, comme Alain, en fait. On a quasiment le même pattern là-dessus.
Oui, c'est vrai.
Mais moi, je suis sorti, je suis rentré en pub comme gestionnaire de projet web pour commencer. J'ai commencé dans des très, très grandes agences. J'haïssais ça. Après ça, j'ai migré dans une plus petite agence que j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon expérience. J'ai changé en une autre, pour une autre agence qui était SEO, mais qui était petite, puis. En fait, par la bande, justement, les chargés de projet faisaient un petit peu l'architecture d'information, faisaient un petit peu les wireframes. On checkait le budget, le scope, et on se rendait compte que, hey, faire ça nous aidait vraiment beaucoup. Tu sais, genre vraiment avoir une bonne idée de la structure avant d'aller plus loin, d'avoir cette étape-là. Fait qu'à un moment donné, on m'a comme donné ce poste-là, c'est d'être l'architecte d'information. J'ai commencé comme ça. Puis c'est drôle parce que là, ça a commencé à se
On est
greffer
en
à
quelle année à peu près à ce moment-là?
Ah, écoute, 2007. 2007-2008. Puis là, après ça, ben justement, j'ai commencé à en faire. Puis je continuais à gérer des projets en même temps. Puis là, à un moment donné, on a dit non, regarde, go, tu vas devenir genre vraiment l'expert là-dedans. intégrer l'utilisabilité, intégrer les tests également. Parce que c'est drôle, parce que dans les études, on faisait beaucoup de recherches sociales, que ce soit justement des recherches plus qualitatives ou quantitatives. Fait que j'avais fait ça durant mes études, puis là, j'ai comme intégré ça. Là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. J'ai vraiment été happé, je te dirais, plus 2012-2013. Puis, je suis resté en agence jusqu'en 2014, j'ai goût de dire, ou 2014. Puis là, à un moment donné, en agence, je me rendais compte que c'est moi qui allais chercher les clients, c'est moi qui faisais tout le UX, c'est moi qui faisais genre toute la réflexion par rapport à ça. Et je voyais très bien le bill sortir. Puis j'avais, écoute, un salaire qui était tout petit par rapport à ça. Puis l'agence avait été gobée par une plus grosse agence. Puis moi, dans les grosses structures, oh, je suis pas bien. Je suis pas bien là-dedans. Donc, j'ai décidé en est de partir à mon compte. Puis là, ça fait 6 ans que je suis à mon compte. 6-7 ans que je suis à mon compte. Puis j'adore ça. J'aime vraiment, vraiment ça.
Parlons-en un peu des... Moi, je voulais parler un peu de l'évolution du marché, mais parlons un peu, parce qu'on est tous passés par là, du monde des agences versus ce que nous sommes devenus. Est-ce qu'on peut dire qu'ErgoWeb est une agence maintenant? Pas nécessairement, parce que vous n'en avez pas le fonctionnement comme le font les agences avec des chargés de compte, des chargés de projet. Oui, vous avez des chargés de projet, mais il n'y a pas ce fonctionnement-là. Puis je pense, peut-être, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. On s'en est tenu loin un petit peu pour l'avoir vécu. Ouais. Comment vous avez vécu ça, vous, la passation d'agence à une nouvelle forme qu'on a appelée l'UX, mais même si on le fait en groupe, on ne le fait pas de la même façon. Comment vous voyez ça? Comment vous avez vu ça?
Bien, il y a plein de formules différentes propres à ça. Puis ça va aussi avec le type de client qui varie dans le temps. Parce que, tu sais, qu'on appelle ça une pratique, une agence, il y a plein de... L'idée, c'est que je sens qu'on commence à voir des regroupements d'expertise. Puis, il y a plein de modèles, en fait. Il y a l'agence traditionnelle qui va avoir un ou deux UX dans l'équipe. Il y a des clients qui vont bien s'accommoder de ce type de structure-là. Il y a des structures comme ErgoWeb qui sont, en fait, des boîtes hyper spécialisées dans quelque chose, par contre, qui est une variété de services qui commence à être de plus en plus grande, mais qui est vraiment, où il y a des, plutôt que les choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Alors, tu sais, on fait pas de technologie, on reste agnostique, on reste neutre. Puis, pour ce qui est de la structure en tant que telle, peu importe le nom, l'important, je pense, c'est de remarquer qu'il y a une concentration d'expertise qui fait qu'il y a vraiment un métier, qu'il y a vraiment un secteur qui existe et qu'il y a des gens, des clients, qui aiment travailler avec des gens qui sont des experts. Alors, des organisations qui vont être tout à fait à l'aise de dire, je vais aller chercher les meilleurs en technologie, je vais aller chercher les meilleurs en UX, je vais aller chercher des meilleurs en X, Y, Z, puis je vais me bâtir un team projet autour de ça. Et le fait qu'il y a donc une maturité dans l'industrie avec des clients qui sont prêts à recevoir ça, fait que là, il y a de la place pour des structures qui peuvent offrir des services relativement spécialisés dans UX au sens large du mot, je pense.
C'est un bon point. Je pense que c'est peut-être, puis on en reparlera un peu plus tard, mais le niveau de maturité d'un client qui peut se permettre ou qui a le confort de dire je vais aller chercher les spécialistes au bon moment dans mon projet. Venir chercher un bureau d'UX, c'est l'équivalent de venir chercher un bureau d'architecte dans un projet immobilier où je le prends clé en main, où j'ai le confort de dire je vais planifier à l'avance avec un bon bureau d'UX.
Puis ça veut pas dire que t'es in and out, là. Tu peux rester sur des projets très longtemps, mais il y a des moments, je pense, où effectivement, très tôt dans le projet, t'es plus investi, t'es plus dedans, et puis plus ça avance, ben là, ton rôle change, puis t'es peut-être pas nécessairement présent, mais t'es moins présent.
Comme un bureau d'architecte. Oui, Domingo?
Mais moi, c'est drôle parce que tu vois, je te dirais, le tiers de mes clients sont encore des agences. Donc, puis vraiment des agences pub ou des agences techno, des agences web qui viennent me chercher pour des besoins spécifiques. Puis c'est drôle parce que dernièrement, je parlais avec une grande agence à Montréal qui, eux, ont clairé leur UX. En fait, ils n'ont pas clairé leur UX, toute leur UX sont partis. C'est toute leur équipe qui était spécialisée en UX sont partis puis ont décidé de ne pas les remplacer. Parce que c'est un besoin qui est très spécifique en agence. C'est un besoin qui est très ponctuel. Il y a des clients qui arrivent et qui disent « Oui, moi, je veux que tu montes une super belle campagne. » Puis il y en a d'autres qui vont arriver, justement, qui vont dire « Écoute, moi, je veux que tu montes un super site web. Puis je veux vraiment qu'un UX embarque puis nous donne un coup de main par rapport à ça. » Et c'est là que, par exemple, ils vont venir me chercher. Puis j'avais une grosse conversation avec cette agence-là parce que ça m'avait surpris. C'était une agence qui était vraiment reconnue, en fin de compte, quasiment pour cette offre-là, qui était très user-centric. Il y a beaucoup de bons UX qui sont passés par cette agence-là, puis qui ont décidé de dire, on n'est plus capable de les garder, notre monde. On n'est plus capable, justement. Puis c'est un besoin qui est tellement ponctuel qu'on préfère aller chercher l'expert au bon moment. Puis ça, je l'entends de plus en plus dans les agences. Que justement, plutôt que de dire, écoute, on offre.
Mais c'est pas une erreur, ça, des agences?
Ben,
ouais. Mais c'est pas une erreur des agences, parce que s'ils le font de façon ponctuelle.
Ouais. Ouais,
ben, en fait, ça dépend du besoin, mais c'est que je crois, puis je veux pas généraliser, là, je veux pas mettre toutes les agences, tous les groupes dans le même panier, mais je remarque, en fait, ce que j'entends de personnes qui s'intéressent à AirWeb, des UXU à qui on parle pour engager ou pour collaborer. Une chose que j'entends beaucoup, c'est que le fait de se retrouver, si t'aimes travailler dans une équipe, si t'aimes travailler dans un contexte d'agence ou limite, appelle-le comme tu veux, mais des fois, c'est fun d'être entouré de gens qui font un peu le même genre de travail, puis peut-être dans un univers où t'es pas obligé de te battre pour chacun des trucs que tu fais. Ouais. Et puis le fait est que dans plusieurs agences, ben le UX fait partie des choses où, ben oui, si à un moment donné, tu sais, avoir 20 heures pour produire 6 écrans d'une solution qui vaut peut-être une fortune pour le client, il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans quand tu y penses. Ouais. Quand on est en agence, mais c'est que tu deviens frustré, puis je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans, en fait. Fait que, est-ce qu'il y a une erreur de la part de certains joueurs à ce niveau-là? Je croirais que oui, mais encore là, je ne veux pas généraliser.
Effectivement, moi, ce que j'ai vu dernièrement, c'est que d'abord, les agences s'entre-déchirent beaucoup en ce moment. Il y a énormément de petites agences qui sont revenues dans le marché. On l'a vu dans les 20 dernières années, parce qu'on est quand même des vieux joueurs, là, qu'il y a eu à un moment donné le phénomène des petites agences qui ont été achetées, qui sont des grosses, qui ont été achetées par des internationales, et que là, les internationales prennent un peu leur trou, sont un peu moins créatives, puis les petites agences reviennent encore. Mais globalement, je les trouve assez éloignés de certaines formes de méthodologies qui font qu'ils sont de façon assez acharnée en compétition les unes avec les autres, sans pouvoir objectivement dire qu'est-ce qui les différencie les uns des autres, justement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on est capable, nous, d'offrir à quelque part, mais en même temps, comme vous le dites, vous avez raison, ils s'en sont départis du côté qui aurait pu être plus objectif dans leur production, qui est le UX.
Je pense qu'Alain a peut-être gratté un petit peu le bobo, cette notion du billable hours, qui va peut-être en l'encontre du UX. Du UX, puis ça, c'est quelque chose que je dis très souvent à mes clients. Oui, mais c'est justement, c'est un investissement. Prends le temps de bien faire ça. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de faire ta recherche initiale. Puis tout va mieux aller par après. T'sais, si tu interviews, si tu fais des entrevues de départ, si tu fais du card sort, du tri par quatre, excusez l'anglicisme, si tu prends le temps de faire une architecture, de bander ça dans l'équipe et tout, la seconde où tu donnes ça à l'équipe de développement, ça va plus vite. Parce qu'on on est plus confiant. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est un argument de dire, écoute, ton délai projet, retarde-le de un mois ou retarde-le de deux mois. Le temps qu'on fasse notre travail comme il faut, non, moi, ce que j'entendais quand j'étais en agence, c'est j'ai une semaine. Fait, qu'est-ce que je faisais en une semaine? Faisais vite, vite l'architecture d'information, je faisais des wireframes. Basé sur mon expérience, je croisais les doigts puis j'espérais que ça allait fonctionner. Puis encore une fois, faire ça, c'est encore un peu la méthode que j'ai pour certains projets parce qu'ils n'ont pas le budget, le temps de tout faire. Puis c'est correct. En même temps, il faut l'accepter. Il y a des affaires qui sont tellement établies qui ne changent plus. Là. Je veux dire, je ne veux pas challenger c'est quoi le principe d'un e-commerce. Là. C'est correct. Je veux dire, on peut toujours le tweaker, on peut toujours faire une petite recherche pour dire mais quel genre de client que tu as, c'est quoi absolument ton user journey. Mais pour beaucoup de monde, pour des petites PME, ils n'ont pas le temps de faire un mois, deux mois de recherche. On s'entend là-dessus aussi. Puis on va
Non, c'est vrai. Mais parlons justement de Mais parlons parallèlement à ça de l'évolution de nos clients, parce que si les agences se sont départies de ce qu'ils considéraient quelque chose qui était moins billable avec le UX, on n'a pas manqué de business, nous, à part, et même au contraire, je dirais que les clients qui se sont équipés de ce qu'étaient les agences, ils ont des départements de marketing, de design, de
UX,
dans les petites, mais et de UX aussi maintenant. Mais maintenant, ils viennent nous voir pour de l'innovation, pour aller un petit peu plus loin ou pour des projets autres.
Je pense qu'il y a absolument ça. Ils viennent nous chercher aussi comme troisième œil, comme avis externe. Ils viennent nous chercher en support sur des projets qui sont quand même qui peuvent être intéressants, même si on n'est pas nécessairement en stratégie. Mais la chose qui arrive pour revenir aussi aux agences, c'est que tous ces clients-là, en fait, c'est que en ce moment, on travaille, on l'a pas cherché activement, ça s'est un peu passé comme ça. On a rencontré beaucoup de firmes dans l'univers du logiciel, en fait. Et on a exact. Nos plus gros mandats en ce moment, c'est du logiciel pur et dur, et puis c'est des mandats sur des mois. De recherche utilisateur à fond la caisse, de conception, d'itération rapide, en agile ou pas en agile, whatever. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, ben, en fait, il y a certaines clientèles où cette maturité-là, elle existe. Et je pense qu'elle attire un peu l'expertise en UX, évidemment, parce qu'il y a des choses qui se font de ce côté-là. Puis de l'autre côté, ben, tu as une clientèle qui l'est peut-être un peu moins, qui est servie par des agences qui sont peut-être un petit peu plus traditionnelles, ou ben là, un peu, Dominico, comme tu disais, ben, c'est un peu le coût classique où tu as un temps assez limite pour faire un livrable, puis là, tu y vas un petit peu sur les meilleures pratiques, puis voilà. Là. Mais je pense que cette maturité-là chez les clients font qu'en ce moment, il y a vraiment un clivage. Et dans certaines industries, je parle de Vertico, comme on travaille dans un logiciel en ressources humaines en ce moment, puis c'est assez intéressant parce qu'eux réalisent qu'un de leurs facteurs compétitifs premiers, ben, c'est la facilité d'utilisation chez leurs grands clients. Alors, eux sont prêts à investir des sommes conséquentes pour s'assurer que ce logiciel-là atteigne un niveau de convivialité supérieur à leurs concurrents, en fait. Fait que là, tout à coup, c'est devenu très mesurable, c'est devenu très tangible. Le UX, c'est quelque chose de très, très, très concret qui s'est imbriqué dans leur méthodologie.
Et tu te souviens, il y a quelques années, on travaillait ensemble, Alain, sur un projet où, à un moment donné, c'est une agence classique qui a eu le mandat et le client de nous appeler plusieurs mois plus tard en disant « ils nous ont livré des PSD ».
Oui.
Trois PSD, mais c'était encore là une application complexe. Une équipe de programmation de 30 personnes attendait des résultats sur plusieurs mois, mais ils ont reçu des PSD. Puis là, je pense qu'on a commencé à avoir un clivage vraiment bien, bien notable entre l'approche d'agence. Puis je ne dis pas que toutes les agences font comme ça, là, mais c'était la livraison des deux, trois PSD. Le client qui était « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Là? J'ai des programmeurs qui attendent maintenant. » Je pense que c'est là où on a pris une place prépondérante dans le développement de comme tu le dis, de logiciels plus complexes. Nos méthodologies s'imbriquent bien avec les méthodologies agiles aussi des grandes entreprises. Ça devient intéressant d'être là où on est en ce moment.
Mais tu vois, justement, pour répondre à ça, tu vois, la moitié, encore une fois, je dis encore une fois, tu sais, je travaille beaucoup avec les agences. Puis très souvent, les agences, bien, ça peut être des sites web. Tu sais, on s'entend. Puis c'est des sites web, soit transactionnels, ou c'est des sites web pour présenter un produit, ou quoi que ce soit. Ça, mon feeling est que justement, tu sais, le niveau de maturité du web, tu sais, avec les règles d'accessibilité, les règles de SEO, les règles de mobilité, les règles de responsiveness, on est rendu dans un carcan qui est assez limité. Donc, c'est assez facile à développer. Moi, je trouve cet aspect-là. Puis, pour, je dirais encore une fois, regardez mon principe de Pareto que j'aime tellement citer, que pour 80% des projets, c'est correct de faire ça assez court, de se baser sur des règles établies, de se baser sur les meilleures pratiques, pas nécessairement faire le plus. Puis, un 20%, que ce soit des logiciels, des applications, des sites web plus complexes, des sites web qui veulent amener ça dans un autre niveau, carrément, où ce que là, on y va en profondeur. Puis là, ça nous prend plus de temps. Puis, c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment deux formules. J'ai une formule où ce que je travaille avec un projet scopé. Tu veux avoir ça comme livrable, tac, 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 je te livre ça. Puis j'ai d'autres projets où c'est une rétention de service. Tu me retiens pendant 3 mois, 6 mois, trimestre, genre par trimestre, puis on va travailler ensemble. Je te dis pas c'est quoi je vais te livrer, je te dis pas comment qu'on va fonctionner, mais on se rencontre à toutes les semaines, on se jase, je te donne du temps. Si moi, à un moment donné, à ce temps-ci, je dis, tu sais quoi, on va arrêter 2 secondes, on va se revirer de bord, allons faire des entrevues, ou allons faire des tests guérilla. Parce que moi, je trouve que cette fonctionnalité-là, de la manière que vous l'avez pensée, ou qu'on l'a pensée, je suis là-dedans, là, ça me chicote. Je me dis que ça va probablement accrocher. Il y a peut-être un terme là-dedans. Il me semble que ça ne fonctionne pas. Puis tant qu'à deviner, donnez-moi une semaine. Je reviens la semaine prochaine. Puis là, je pars. Puis je reviens. Puis c'est drôle parce que c'est des trucs que si je livrais, tu sais, genre si c'était un livrable scopé, c'est-à-dire que si je l'avais évalué initialement, ça coûterait une fortune à ces clients-là. T'sais, parce que chaque petit élément, ça se rajoute au bill. Mais c'est pas le même que je fonctionne. Je fonctionne à l'heure. Enfin, je fonctionne pas à l'heure, je fonctionne sur le trimestre. Donc là, à un moment donné, je vais vraiment donner un gros boom pour essayer de dire, OK, on va gratter ce bobo-là, on va essayer de trouver c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui fait qu'en termes de fonctionnalité, ça ne fonctionne pas ou que je sens qu'il y a quelque chose qui qui accroche. Voici notre solution. Paf, on passe à la prochaine. C'est un petit peu un espèce de mini sprint design.
Mais c'est intéressant.
Ouais.
L'équation du 80-20 est intéressante, mais je te dirais, je pense que pour la constatation d'Alain et moi aussi dans le marché, le 20, il est là. On a des équipes IT qui fonctionnaient un peu à l'aveugle avant et qui aiment bien appliquer les paramètres que tu parles là, que tu dis on va faire d'itération, on va faire du prototype, on va vous faire sauver du temps. Ça applique tellement beaucoup à une application qui va être programmable sur 2 ans. Là.
Il y a une chose que je retiens de ça, puis c'est le mot « ensemble ». Et puis, on parle beaucoup de la maturité du marché, on parle beaucoup de la maturité des clients, mais il faut peut-être penser aussi à la maturité des acteurs du UX, à la maturité des UXers eux-mêmes. Mm-hmm. Il y a des choses qui ont changé beaucoup ces dernières années. Premièrement, il y a une main-d'œuvre qui est pas un peu plus qualifiée qu'avant. Des gens qui sortent des universités au Québec et ailleurs, qui ont des expertises, donc qui sont beaucoup plus qualifiés. Alors, tu as des gens, des jeunes qui arrivent sur le marché, qui ont des meilleures pratiques, une expérience, et qui vont faire une belle job. Fait qu'il y a ça beaucoup. Mais il y a une autre chose aussi, puis ça, c'est quelque chose pour moi, c'est ma corde sensible beaucoup, c'est dans le savoir-être. Et puis, c'est assez récent que, enfin, je crois, on commence à voir émerger dans le monde du UX une certaine maturité chez ces acteurs qui fait que nous-mêmes, en tant que UXer, on a une plus grande facilité à s'intégrer aux équipes et à, sans nécessairement dans un esprit de preacher, d'évangélisation et de dire « vous avez tort et nous avons raison ». Mais tu sais, d'arriver en se disant « ok, c'est vraiment, on a une problématique de conception, on a une problématique d'affaires, je dirais même, à régler. Nous, on a un tool set et on apporte un tool set à table ». Dans le fond, c'est ça. Puis quand le toolkit qui est intéressant, il y a d'autres gens qui ont d'autres toolkits, pardon, je voudrais dire, qui ont d'autres boîtes à outils, en fait. Et puis là, c'est de mettre tout ça sur la table ensemble puis de dire, OK, là, c'est super intéressant, on peut faire des choses. Donc, la clé là-dedans, je pense, c'est le ensemble et cette capacité-là à travailler avec d'autres expertises.
Et c'est vrai. Et une des grosses expertises que j'ai découvertes dans les trois dernières années, mais tu te souviens, c'était quand on a rencontré Éric Letarte il y a 3-4 ans, on avait fait un atelier dans le temps où il était chez Libéo, puis on avait organisé ça à la maison d'Otman. C'était un eye-opener aussi parce que d'intégrer ça en début de projet, je trouve que c'est quelque chose que même rarement les agences vont mettre en place, c'est de bien comprendre le besoin de nos utilisateurs, seulement nos utilisateurs, mais nos clients.
Ouais.
De bien s'assurer qu'on a super bien scopé ce qu'ils veulent faire dans leur projet. Et quand je le fais pas, je m'en aperçois tellement rapidement dans mes projets maintenant. Là, il a manqué cette étape-là où on n'a pas écouté le CEO, CTO. Hein. Ils se sont pas assis à la même table pour raconter la même histoire. Et ça me revient d'en face à chaque fois. Donc oui, le ensemble, mais le ensemble s'est élargi un petit peu de gens avec des expertises super intéressantes qui ont cimenté encore mieux notre industrie, je dirais.
Puis c'est toute la question, tu sais, on parlait de human factors, on parlait d'utilisabilité, on parle d'expérience utilisateur, on parle d'expérience client, on parle de toutes sortes de c'est un, tu sais, je sais pas ça va être quoi la saveur du mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je sais pas comment on va s'appeler, mais je pense que c'est pas tant important que ça, en fait, mais en bout de ligne, c'est cette capacité-là d'amener des outils qui favorisent la convivialité puis qui permet d'arrimer une idée d'affaires avec sa clientèle. Puis je pense que ça, on a un beau coffre à outils pour contribuer à cet arrimage-là, peu importe comment on l'appelle.
Oui, je pense que c'est là. Hein. Tu te rappelles de Mme Stéphanie Rosenbaum qui était dans UXPA à Toronto, que tu avais aidé à organiser. J'y étais, je l'avais interviewée, puis elle avait dit exactement ça. En fait, peu importe le nom, peu importe les technologies, on va toujours être les personnes qui vont savoir faire parler une machine à un humain. Oui. Et elle faisait son métier depuis 1967. Là.
C'est pas rien.
1967, c'est pas rien. C'est une pionnière de l'ergonomie. Puis pour elle, quand je lui avais parlé d'intelligence artificielle, elle avait dit exactement ça. Ça change rien du tout. C'est la même équation, les mêmes méthodologies qui vont être utilisées pour arriver à ce qu'on doit faire. Dominico?
Ben, je voulais juste revenir sur ce fait justement du ensemble. Puis tu parlais de maturité. Je pense qu'il y a une grosse affaire qui a changé dans les années. Puis là, je parle de mes premiers tests utilisateurs, il y a 7-8 ans. Il y a 7-8 ans, là. Ce que j'entendais, en fait, je rencontrais justement l'équipe de direction, ou tu sais, les stakeholders, ceux qui prennent les décisions dans une compagnie, puis ils disaient, ma solution fonctionne, peu importe ce que tu vas dire, ça fonctionne. Tu sais, puis eux, là, ils étaient déterminés à prouver que la recherche que j'allais faire était inutile, puis que j'avais tort en partant. Puis je me dis, écoute, moi, je sens quelque chose qui ne fonctionne pas avec ton interface. Laisse-moi faire des tests utilisateurs, laisse-moi prendre le temps. Parfait. Puis ça, c'est, on en parlait dernièrement, je pense, avec Étienne Denis, cette notion que les premiers tests, le monde arrivait, ouais, mais c'est des imbéciles, ces testeurs-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça, je ne l'entends plus. Non, ça, c'est une grosse différence.
C'est vrai.
J'ai raison, t'as tort, je ne l'entends plus, alors que je l'ai souvent entendu. Puis ça, cette notion justement de
travailler... De leur propre utilisateur, d'ailleurs.
Ben, de leur propre utilisateur ou de moi. Ouais. Dans le sens de, d'homme, ta structure est
bonne,
ma structure est bonne. Puis là, je dis, oui, mais vous, vous êtes collé dans la forêt. Vous, vous utilisez vos termes. Vous, vous utilisez votre structure, puis vous la reflétez dans votre site web. C'est pas une bonne idée. C'est pas la structure du client. C'est pas la structure
Alain, de Alain, il a réagi. Alain qui fait beaucoup de tests. Mais ça reste quand même le mal-aimé dans toute notre boîte à outils. Ouais. C'est encore quelque chose qui... Les ateliers dont je parlais tout à l'heure ont une cote incroyable parce qu'on fait participer tout le monde. Là, c'est un peu la saveur du jour, comme le dirait Alain. Mais les tests, j'ai encore de la difficulté à intégrer ça. C'est le mal-aimé et pourtant si efficace.
Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai pas cette expérience-là avec les tests parce que c'est quelque chose... Traditionnellement, entre autres Gabriel et moi, je pense qu'on avait le mot « test » étampé dans le
fond. Très reconnu pour ça, oui.
Fait que c'est sûr que ça aide. Mais il y a un phénomène qu'on observe avec le test. Puis j'abonde dans le sens de Dom, d'ailleurs, à ce niveau-là. Auprès de certains groupes, de certaines personnes, c'est un acquis, c'est clair, là. Puis c'est beaucoup plus facile à faire qu'avant. Et je dirais que ça va tellement loin que sur certains projets, le test, c'est un incontournable, c'est un no-brainer, ouais. Mais ça devient une commodité. Mais ça devient une commodité. Ça devient, ben oui, écoute, il faut trouver des façons de l'intégrer, de le raccourcir, de le faire vite, oui, mais d'en faire beaucoup. Fait que c'est d'un point de vue bassement commercial, je te dirais que c'est pas une activité qui est... Elle est de moins en moins payante si on ne peut pas le plus possible l'automatiser en quelque part. Puis, il y a plein de technologies qui vont dans cette direction-là, d'ailleurs. Fait que le fait qu'il y ait une commoditisation de ce genre de service-là, ben, c'est un indice qu'il y a une maturité dans certains secteurs, en tout cas, qui s'est installée.
Fait que, elle est potentiellement de moins en moins coûteuse parce qu'on peut faire du test guérilla, malgré que des puristes me diraient qu'on ne peut pas ou que c'est moins efficace, mais reste que dans un processus de plusieurs mois, de faire des tests rapides, avoir les conclusions des tests le lendemain, ça devient quelque chose que certains clients aiment bien avoir aussi. Là. Et c'est une preuve de concept que c'est important pour eux de le faire comme ça aussi des fois.
C'est drôle parce que moi, quand je vends des tests, très souvent, le monde arrive et dit « OK, ben j'ai le budget, mais pour un test. » Et là, la grande question, c'est quand est-ce qu'on fait le test? Au début, quand on a juste des wireframes, au milieu, quand on a quelques maquettes, ou proche de la fin, quand on a un site bêta. Puis ma réponse est tout le temps, mais ça dépend de la confiance qu'on a. Si on n'est pas confiant par rapport à ce qu'on vient de faire, je ne donne pas une réponse en partant, ça dépend. Mais si on n'est pas confiant, puis qu'on est comme « Hé, on est vraiment champ gauche, c'est quelque chose de très nouveau », fais des tests dès que tu as des wireframes. Fais des tests papier même, au pire. Là. Papier, même si tu fais un prototype, imprime-les ou envoie ça. Puis moi, en tant que modérateur, je te guide dans les wireframes. Je te dis, OK, tu aurais cliqué là, mais tu aurais été 4 pages plus loin, tu serais arrivé là. Est-ce que tu comprends? Puis là, on peut déjà se dire, OK, voici déjà ce qu'il faut corriger pour plus tard. Sinon, en faisant au moins quelques maquettes, avoir quelques visuels, attendons une couple de semaines, mergeons ça, faisons un prototype dans XD. Puis là, on fait des tests également. Puis sinon, si tout va bien,
faisons. J'ai jamais eu un client qui refusait les conclusions des tests. Au contraire.
Non.
Toujours des retours positifs sur les tests.
Il y a vraiment eu les gens où ils sont beaucoup plus matures. Je me souviens très rapidement de faire des tests il y a hyper longtemps, fin des années 90, début des années 2000. Je crois que vous connaissez ces anecdotes-là. J'ai vraiment me gardé une gêne, mais il y a deux projets que j'oublierai jamais où, devant les résultats ou durant des tests d'usabilité, des gens côté client, j'ai vu quelqu'un perdre conscience tellement elle était sonnée par les résultats des tests qu'elle voyait devant elle. Elle se rendait compte que sa solution ne marchait pas, elle est tombée dans les pommes. Et j'ai vu quelqu'un dans un contexte similaire faire une indigestion. et c'était du déni, mais du déni comme ça ne se peut pas, ça se peut pas. Ben regarde, ça se passe sous tes yeux en ce moment. Alors oui, depuis 20 ans, on a fait du chemin. Il y a une maturité qui s'est installée.
Il y a une maturité, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de nos collègues qui viennent d'écoles de design pur où les méthodologies UX ne sont pas enseignées. Donc, l'ego est encore mis beaucoup de l'avant dans le design pur. On met un UX à côté de notre nom, on devient un designer UX, mais à un moment donné, on se retrouve dans des processus de tests qui vont probablement invalider complètement toutes nos théories. Il y en a qui doivent encore avoir le goût de ressortir leur dîner parce que ça doit remettre leur monde en question pas mal, là. Du coup, j'oserais vous demander, en utilisant ce petit terme français que j'aime bien, du coup, quel serait le persona client idéal? Moi, j'en ai eu une dernièrement que je nommerai pas, mais avez-vous eu des moments où je vous disais l'interaction, c'est optimum, tout va bien?
Ben,
et pourquoi?
Ben, juste l'ouverture d'esprit d'un client fait une grosse différence. Un client qui est ouvert d'esprit, qui est prêt à se faire challenger, qui est prêt à écouter, ça fait une énorme différence par rapport à un client qui... Puis j'en ai eu ça aussi, tu sais, je veux dire, t'as ton persona idéal, t'as ton persona non idéal, qui est la personne qui dit, ben apparemment qu'il faut faire des tests utilisateurs ou apparemment qu'il faut passer par un UX, fait qu'on t'a embauché, mais c'est vraiment juste pour la forme. Donc,
oui, mais, c'est pas optimum.
Dernièrement, là, en fait, ça fait quelques temps que je collabore avec une firme d'avocats, c'est des avocats, qui m'ont engagé pour faire des tests utilisateurs sur les termes juridiques. Parce que, en ce cas, vite, dernièrement, il y a eu des jugements qui disent, mais si ton contrat n'est pas compréhensible par monsieur, madame, tout le monde, bonne chance. En fait, le juge peut dire, ce n'était pas facilement compréhensible, c'est trop d'avocasserie, pratiquement. Donc, tout le monde, ensuite, est en train de se challenger sur, oui, mais le fameux terme et condition, est-ce que c'est compréhensible? Dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la finance, il y a beaucoup. Et il y a cette gamme d'avocats-là qui sont venus chercher une firme d'avocats. Là, on s'entend absolument, tu sais, le persona d'une firme d'avocats, c'est très fermé d'esprit. Au contraire, ils sont hyper ouverts d'esprit. On jase. Dans le temps, pré-pandémie, on se faisait des cafés. Tu sais, on jasait longtemps. Je leur disais, mais regardez comment on pourrait intégrer de la méthode UX dans votre affaire. Puis là, ils étaient à l'écoute. Puis l'interaction que j'ai avec cette gang-là, je l'adore parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont prêts.
C'est une nouvelle génération, oui. Parce que ça a porté nos early adopters de la technologie, les avocats. Là, on les retient encore pour leur longue utilisation du fax.
Ben, et les médecins. Puis, je pense que la pandémie a amené, ça a amené ça à un autre niveau. Puis, on en reparlera un moment donné de ce que la pandémie a changé du côté, justement, des UX, de l'évolution qui a été soudaine dans la dernière année dans certaines pratiques. Mais moi, justement, des avocats qui sont absolument très conservateurs, qui disent, ben voici la façon qu'on travaille, puis qu'on bille à l'heure, puis nanana. Puis que là, ils m'amènent voir le client, puis qu'on fait des ateliers, comme tu as dit, Derek. Écoute, j'ai fait des ateliers avec des avocats, avec des clients, parce qu'ils voulaient rédiger de quoi qui était facilement, facile à comprendre pour l'utilisateur. Puis tout ça, c'était fun, cette mentalité d'ouverture, puis de dire, OK, Dom, c'est quoi que tu nous proposes par rapport à ça? Puis tu parlais de maturité UX. Mm-hmm. Ben, eux, j'ai l'impression qu'ils ont amené une maturité UX dans leur pratique, en faisant ça, en m'écoutant, puis en intégrant ça dans leur offre de service, entre autres.
Dans les quelques 300 entrevues que j'ai pu faire pour le podcast avec Bruno, j'ai pu voir les déclinaisons de nos méthodologies s'appliquer dans tellement de domaines maintenant, que ce soit dans l'hôtellerie. J'ai eu des discussions avec Patrick Gagné de Théo Taxi, qui ont appliqué des méthodologies UX, mais tout. C'est fascinant, c'est intéressant.
C'est que les méthodologies UX elles-mêmes, je veux dire, elles ne viennent pas du vide, là.
Elles viennent d'ergonomie, elles reviennent des années 50.
Tout ça, effectivement, ça revient en fait au monde de l'aviation beaucoup. Mais le fait est que c'est des expertises qui sont partagées par plein de secteurs et nous-mêmes, on s'inspire de plein d'autres secteurs. Puis, il y a une richesse justement dans le fait de mélanger toutes ces idées-là ensemble. Puis, pour revenir sur la question des personas, par ailleurs, rapidement, c'est une super bonne question du client modèle. Là. Ben, c'est assez intéressant parce qu'en fait, je réfléchis beaucoup à cette question-là. Et puis, il y en a plusieurs en réalité. Puis, il y a le client qu'on aime, oui, mais en réalité, des gens qui vont avoir besoin d'aide en UX, il y en a plusieurs. Puis, je pense que c'est important d'en être conscient pour être capable d'avoir une offre qui répond à ces gens-là. Puis, en partant, tu sais, il y a une très grande distinction, je crois, entre une offre qui est plus ponctuelle, qui est plus tactique, versus une offre qui est plus sur le long terme et qui est plus stratégique. Puis ça correspond à deux types de clients assez différents. Et puis tu peux préférer y aller avec un grand nombre d'interventions tactiques, tu peux préférer y aller avec un moins grand nombre d'interventions plus stratégiques. Puis ce sont des profils complètement différents. Dans un cas, je pense que tu es plus proche de la conception et du métier de la conception, donc dans le côté qui est plus tactique, tandis que, ou de la mesure ou de l'évaluation, plein de choses, là, tandis que quand tu es d'un côté plus stratégique, ben là, le UX, c'est plus un outil de consultation d'affaires, en fait. Fait que, puis c'est des personas, mais alors là, qui sont complètement différents, mais je pense qu'il y a de la place pour ces différents, pour au moins ces deux personas-là dans un portfolio client, là, si on me permet l'expression.
Donc, justement, tu parles, en fin de compte, pratiquement de, ben, il y en a qui ont besoin de designer UX, puis il y en a qui ont besoin de stratège UX.
Oui, on pourrait, oui, oui
probablement. Aussi, oui. Dans la grande spécialisation, oui.
Puis c'est ça, puis ça, je pense que ça arrive justement, à quel moment tu arrives, tu sais, genre dans le développement, par exemple, ou c'est quelque chose qui est établi depuis super longtemps, ben des fois, ils vont avoir besoin d'un designer UX pour, OK, on a une nouvelle fonctionnalité qu'on veut rajouter, ce serait quoi les bonnes pratiques, comment qu'on le rajoute, comment qu'on, bon, ponctuel. Puis il y en a que c'est comme, non, regarde, on part un nouveau projet ou on part une nouvelle fonctionnalité, mais on veut bien la réfléchir du début. Et quelle est notre bonne stratégie? Puis, tu sais, on parlait tantôt des termes qui changent, tu sais, stratège UX, j'entendais pas ça il y a 3-4 ans. J'en entends de plus en plus parler.
Mais... Ouais. Puis, c'est super intéressant, Dom, parce que je vais pousser l'affaire une coche plus haut. La question, on parle de stratège UX, puis des fois, je regarde ce qu'on fait dans le métier, puis je me dis, c'est même plus du UX, en fait. Non. On a un coffre à outils, on a des façons de faire pour aller chercher une partie du dataset dont tout le monde a besoin pour faire avancer des projets. Exactement. Alors, à un moment donné, ça devient... tu sais, je pense que dans l'industrie du UX, en fait, on va peut-être être surpris de réaliser comment de très grands cabinets conseils à la Deloitte, justement, qui en fait un peu à la EY, à la blablabla, sont en train d'intégrer ça dans une offre de service qui est de la consultation d'affaires et de se rendre compte que, ben mon Dieu, c'est du UX pur et dur dans l'esprit et d'une certaine façon dans la lettre aussi. Fait que je pense qu'on est en train de vivre cette espèce de maturation-là et probablement que le client rêvé en UX ou la personne la plus fun avec qui travailler, ben on est rendu dans un univers où on n'a même plus besoin de parler de UX, on n'a plus besoin d'en parler, mais c'est ce qu'on fait. Le rêvé, ça serait ça.
C'est la fameuse maturité UX.
Mais
moi,
il y a quelque chose... Répète à partir de maintenant. Vas-y.
Moi, ça?
J'ai eu une coupure. Oui, vas-y.
Okay. C'est drôle parce que justement, quand on parle de maturité UX dans une entreprise, j'ai l'impression justement que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup cette notion de... J'essaie de bien le phraser, là. D'aller chercher la bonne personne au bon moment, mais d'être conscient qu'on a un besoin par rapport à ça. Puis, il y a encore des entreprises qui n'ont pas cette conscience-là. Mais il y a aussi des entreprises qui sont extrêmement conscientes d'être centrées sur le besoin utilisateur et non pas sur les besoins de la structure d'entreprise. Tu sais, de trouver le bon mariage entre les deux, c'est sûr qu'on a besoin de monétisation, on a besoin d'aller chercher, en fin de compte, des revenus ou c'est de notre réalité, on ne peut pas y passer à côté. Puis de l'autre côté, ben, comprendre ce besoin utilisateur dans sa recherche d'informations, d'être centré là-dessus. Mais ça, on le voit de plus en plus. En fait, on le voit de plus en plus. Il y a des entreprises qui sont à fond la caisse là-dedans. Puis, tu sais, quand tu parlais de consultation d'affaires, c'est drôle parce que, ben justement, EY, Deloitte, si tu regardes les nouveaux programmes au HEC, qui embauche le plus, j'ai l'impression que c'est ces firmes-là. Tu sais, qui vont chercher des étudiants qui sortent des programmes de UX maintenant. Ben ils vont chercher parce que c'est dans leur offre. Et c'est pas les agences qui vont chercher ce monde-là, justement, si c'est des grandes firmes. Parce que ça fait partie de la mentalité. Tu sais, de dire, écoute, on commence avec une mentalité qui est très centrée sur le besoin utilisateur.
Ouais.
Et quand une entreprise a ça, puis que tout le monde dans l'entreprise a cette notion de « Ah, il faut être centré sur l'utilisateur », ben c'est là que tu as ta maturité. Moi, j'ai l'impression. Quand le développeur, avant de faire quelque chose en disant « Au pire, les utilisateurs vont s'arranger. » Non. Si le programmeur il dit « Attends, comment que l'utilisateur va se ressentir par rapport à ça? » Puis si jamais tu atteins ce niveau-là, ou l'intégrateur, ou encore une fois le stratège, le comptable au pire, mais quand que tout le monde dans l'entreprise a cette notion-là, tu as atteint ton fameux degré de maturité. Ouais. Tu sais, puis c'est, je vais vraiment mettre l'emphase là-dessus.
Et ça, alors, ça devient un client qui...
Ben, c'est, en fait, c'est pas...
C'est un client qui est plus proche de client qu'on aime, là.
Ouais. Ben, c'est pas un client pour moi parce qu'il m'embauche pas. Tu sais, les firmes qui ont... Mais les entreprises qui ont cette maturité-là, viennent me chercher. Ils n'ont pas besoin
de ça. On le voit encore. Non, mais on est la mode aussi un peu. Ouais. Il y a des entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils se disent « On m'a dit que ça me prenait du UX pour régler mon problème. »
Oui, aussi.
Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à l'intégrer? C'est pas tout à fait, c'est pas donné tout le temps.
Ouais.
Et ça m'amène à poser une question pour la dernière partie de notre conversation. C'est est-ce que vous voyez la différence entre des fois vous est-ce que vous préférez aborder une entreprise qui serait design-oriented ou IT ou engineer-oriented? Laquelle a le plus de prépondérance d'être un bon client encore là? Est-ce que même c'est une question qu'on se pose?
Moi, je ne la pose pas. Juste le fait, peu importe que ce soit design-oriented, IT-oriented, engineer-oriented, peu importe comment tu es orienté, si tu es venu me chercher, c'est que tu as senti que tu avais un besoin, puis je suis là pour t'aider dans ce besoin-là, c'est pour répondre à ce besoin. Pour t'influencer, justement, pour que je devienne un peu l'avocat des utilisateurs. Puis, idéalement, vous influencer dans vos décisions par après, quand je vais avoir fini mon mandat, que vous gardiez en tête ce réflexe de dire, oui, mais comment que l'utilisateur se sentirait par rapport à ça? Fait que je sais pas, je vais dire ça. C'est drôle, parce que si t'es trop design-oriented...
C'est.
Vas-y, Alain. Je suis curieux.
Ben, en fait, c'est drôle parce que la première réaction que j'ai par rapport à ça, c'est que on n'a pas nécessairement la même façon de travailler si tu vas dans une boîte qui est design-oriented versus qui est IT-driven. Donc, en partant, il y a ça. Mais à mon sens, les projets qui vont bien, c'est pas une question d'être design-oriented ou d'être IT-oriented, c'est une question d'être result-driven, je dirais. C'est une question d'être orienté vers des résultats. Là, ton objectif, c'est de dire, ben, c'est quoi mon coffre à outils? Alors, je pense que dans une autre, tu sais, j'enverrais pas le même consultant dans une boîte qui est très design oriented versus une boîte qui est très IT, parce que c'est même des skill sets d'interaction différents, tu sais. Fait qu'il y a ça. Mais à la base, je veux dire, c'est l'un ou l'autre qui a un résultat qui est attendu. Puis ce qu'il faut regarder, c'est comment on peut atteindre le résultat, peut-être en adaptant son vocabulaire puis ses outils à aux gens qui sont là. La seule chose qu'il y a, par contre, c'est que faut que ce soit l'un que ce soit l'autre qui est prépondérant. Je pense que c'est des résultats qui doivent être là en premier. Mais à mon avis, je pense quand même que ça ne doit pas qu'une solution, c'est rare qu'elle soit technology-driven à 100%. J'aurais tendance à dire que c'est plus intéressant déjà d'aller dans une approche où tu as tes résultats que tu essaies d'aller chercher avec des designs, des solutions où là, il y a vraiment un travail de conception qui est intéressant, puis après, tu trouves une technologie qui est solide pour supporter ça. Fait que dans ce sens-là, ben peut-être que oui, j'aurais même une certaine préférence. Mais si tu es orienté sur les résultats, je pense que c'est ça qui compte plus que tu sois design ou IT.
Mais tu vois, c'est drôle. Pour reprendre là-dessus, pour avoir travaillé avec les deux types de clients, c'est plus facile de convaincre quelque chose qui est design-oriented que quelque chose qui est IT-oriented. C'est plus facile de collaborer avec une équipe de designers. J'ai l'impression qu'un designer est plus à l'écoute, plus proche. Je sais pas, tu sais, alors que IT, c'est drôle, très souvent, si je vais arriver, ben, leur solution est déjà en place. Puis là, j'arrive, je dis, ouais, en passant à votre solution, faut revoir l'architecture. Puis là, tu vois la face des gars d'IT faire, tu sais, genre tomber en disant, oh, non, on recommence pas tout, là. C'est pas vrai qu'on va tout recommencer.
Par contre, ça devient de plus en plus fréquent que des équipes IT nous appellent très tôt dans le processus, avant même d'avoir commencé parfois. Et ça, c'est un game changer énorme.
Oui, absolument.
Parce qu'effectivement, on n'arrivait que trop souvent dans une infrastructure que, ah ben, en vous attendant, on a monté la base de données. C'est parce que ça risque de changer.
C'est
souvent arrivé.
Les gens d'IT, il y a quand même une chose, là, c'est que si tu as un vocabulaire, puis si tu parles de choses qu'on peut mesurer, s'il y a bien quelqu'un qui comprend ça, c'est quelqu'un de TI.
Un ingénieur.
Un ingénieur. Fait que, en quelque part, dans certains milieux, le fait d'arriver avec du UX qui est bien organisé, où tu es capable de quantifier certaines choses, ben, les gens d'IT t'écoutent religieusement, en fait. Tandis que dans un univers de conception qui est plus flaky, où tu as beaucoup d'ego, où tu as une matière qui est plus abstraite, qui est plus floue, tu auras beau avoir tes meilleurs rationnels du monde.
Mais c'est là où tu vois les vraies bonnes équipes UX vont. Oui. S'ils arrivent dans une équipe IT et ils n'arrivent pas avec une vraie méthodologie et juste un titre UX, ça va clasher. Parce qu'ils veulent de la mesurabilité, ils veulent du test, ils veulent des prototypes qui fonctionnent pour les aider, ils veulent des design systems pour aller aider leurs intégrateurs. Si on ne va pas là, je pense qu'on manque quelque chose, effectivement.
Oui, je pense que oui.
Mais, ouais, en fait, tu as raison, parce que IT, je veux dire ça de même, puis je ne veux pas non plus les... On est dans un carcan aussi généralisé, mais je trouve que IT, c'est très souvent l'exécution. Ils sont rendus au niveau de, on veut exécuter quelque chose. Alors que design, ils sont encore au niveau, on va réfléchir, on va se challenger, on va faire des choses, mais ça m'est déjà arrivé justement d'être dans une entreprise hyper design-oriented où le directeur de création était un, un hyper créatif. Tu sais, puis lui, c'était bien beau l'accessibilité, mais il fallait pas que ça nuise à sa créativité. Puis il fallait pas que ça nuise à son concept.
Ouais.
Puis là, ben écoute, t'as de la misère, puis même si t'arrives avec des arguments, puis des tests utilisateurs, il y tient. Alors que justement, de l'autre côté...
Ah, c'est dur, ça.
Quand tu arrives plus du côté IT, puis tu arrives avec des tests, puis il y a une ouverture d'esprit. Et surtout, je veux dire ça de même, tu as un product owner qui est prêt à donner des sprints ou à donner, genre, justement, du temps pour dire, écoutez, tu sais, les recommandations UX, comment qu'on peut les appliquer? Et la réalité aussi, c'est que nos recommandations UX ne sont jamais appliquées à 100%. Tu sais, il y a tout le temps... C'est un compromis. Pis ça aussi, la job de UX, c'est beaucoup ça. De faire des compromis. C'est-à-dire, écoute, notre système ne nous permet pas de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis? Oui. Ben ça, c'est notre UX web dream, c'est genre notre UX genre idéal, UX c'est ça. Leur idéal IT est ailleurs. C'est où le mi-chemin entre les deux? Puis ça, c'est ça aussi notre réalité. C'est une réalité de compromis, de dire, écoute, on arrive avec nos recherches, on arrive avec ça, voici, on est confronté à la réalité. Et cette réalité-là, comment qu'on est quand même capable de
le faire? Je vais te citer Cynthia Savard-Saussier, que vous connaissez, qui est chez Shopify, qui est maintenant en charge de quelques 400 UX là-bas, qui disait dernièrement, je lui ai demandé la même question, est-ce que Shopify est un design-oriented enterprise ou organisation? Et elle m'a dit, je ne voudrais pas que ce soit le cas. Mais elle disait, je veux quand même avoir l'oreille de tout le monde, de façon comment dire, comment elle a dit ça, elle voulait avoir l'oreille sur tous les projets des IT, des départements IT. Ouais. Que ça soit pas ignoré ou mis de côté. Si je dis quelque chose, faut que vous l'écoutiez. Ça veut pas dire que c'est moi qui lead. Ça veut dire que c'est du... Il y a, comme le disait Alain tout à l'heure, IT livre. Ouais. IT est proche du produit qui va être livré au bout de la ligne. Il faut respecter ça. Mais il faut qu'il y ait l'oreille attentive aux résultats des tests, au prototypage,
au atelier. Ça revient un petit peu à la maturité de tout le monde dont on parlait plus tôt. Puis, à un moment donné, c'est de réelles choses que je dis beaucoup à ma gang tout le temps, en parlant de nous et de nos clients, c'est « Guys, on est dans la même équipe, on compte dans le même net de l'autre bord de la glace, ouais, oublions pas ça. » Puis, quand tu développes cette culture-là, ça aide beaucoup tout corps de métier confondu, là, soit dit en passant. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut rechercher le plus.
Ben, mais tu vois...
Je pense... Oui, vas-y, Domenico.
Ben, pour venir, on va couper deux affaires ensemble. Donc, que ce soit design-oriented ou IT-oriented, tu me demandais tantôt, c'est qui le bon persona? Le persona est celui qui est ouvert d'esprit. Le persona est celui qui est prêt à travailler. C'est nous, mais c'est également...
C'est nous, le parfait persona.
Ben, c'est... Oh. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je dirais...
On le devient si on suit les instructions qu'Alain vient de donner. Là.
Oui, dans le temps qu'on travaille en équipe. Mais tu sais, ça peut arriver justement. Écoute, un exemple parmi mille, j'ai déjà été confronté à une équipe de UX. À un moment donné, j'avais été amené dans une entreprise qui avait une équipe de UX qui était là, qui était établie. Puis ils m'ont amené juste pour un mandat. Puis je venais confronter l'équipe. C'était ça un petit peu mon mandat, c'était « ça va pas bien ». Pourquoi ça va pas bien? Puis, je suis arrivé avec une solution, puis c'était pas la solution que l'équipe préconisait, si on veut. Puis, il était fermé d'esprit, puis le lead de cette équipe-là était comme, non, on maintient notre décision, puis c'est votre décision à la fin, c'est vous le client. Je voulais juste amener un autre point de vue, de peut-être une autre façon d'approcher ça. Écoute, l'entreprise fonctionne hyper bien aujourd'hui, ils font des millions à la bourse, c'est pas ça la question, mais c'est pas... Même entre UX, des fois, on se confronte. Des fois, tu sais, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. C'est ça aussi mon rôle d'externe. Moi, en tant qu'externe, qu'on vient de chercher.
Des métaux qui se confrontent.
Des métaux, même des... Écoute, des expériences qui se confrontent des fois. Ça arrive. On n'est pas... on n'est pas une partie unique.
Une dernière petite question, puis Domenico, t'accroches ton micro. Une dernière petite question. J'avais une note, je ne sais pas si ça a été mis par l'un de vous, je ne me rappelle pas l'avoir mis. Le UX, est-ce qu'on souhaite l'arrivée de direction UX dans les entreprises? On n'en voit pas encore. J'en ai vu une très récemment dans la, l'entreprise où on tenait nos conférences. Voyons comment ça s'appelle. Les données tout le monde. Chez Autodesk. Chez Autodesk, ils ont des VP UX. Est-ce que c'est l'ultime phase de développement d'une entreprise d'avoir un VP UX qui s'assure que qui est horizontal comme chez Adobe, puis qui s'assure que les ventes, le marketing, les IT se parlent bien? Et là, on va vraiment être challengé quand ce jour-là va arriver parce qu'on va avoir à l'intérieur des entreprises quelque chose qui va être très fort aussi, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que c'est beaucoup plus large que le UX en tant que tel. Je crois que la définition classique qu'on a du UX en ce moment, elle est trop nichée pour que ce rôle-là existe. C'est quelque chose qui doit être un peu par l'organisation, certes, mais je crois que la finalité, encore là, est plus liée à la s'assurer que ton client, ton utilisateur, là, que tout soit ravi et que ça marche avec tes objectifs d'affaires. Donc, je pense que ce rôle-là existe par rapport à l'atteinte d'un espèce de plus grand objectif là, qui est la satisfaction de ton client. Je crois qu'il y a déjà des rôles dans ce sens-là qui existent et je crois que le UX est un... oui, c'est six, c'est même plus large que ça, à mon sens. Parce que ça, je pense que c'est des sous-ensembles de choses qui se rattachent à une finalité qui est plus grande. Donc, je pense que c'est plus la culture qui va prédominer dans le temps que le métier en tant que tel.
Bonjour. Moi, je relance, justement, je suis d'accord là-dessus aussi. On se confronte pas beaucoup entre moi et toi, Alain.
C'est vrai que on est étudiés à la même place.
Oui, c'est ça. On ne s'est pas assigné bien à trois aujourd'hui, mais en fait, non. Je pense que nos expériences sont complémentaires. Là.
Mais je suis d'accord avec Alain, c'est pas une question de titre, c'est une question de mentalité, c'est une question de culture d'entreprise. Fait que, oui, c'est sûr que si tu dis « Ah, j'ai maintenant un vice-président UX », c'est comme « Waouh, bravo! » Tu sais, je veux dire, mais s'il s'en sert comme un buzzword, puis qu'il n'y a pas une culture UX qui est insérée, ben ça ne sert absolument à rien.
Non,
appelle ça développement des produits, appelle ça développement des affaires, appelle ça... tu sais, une vice-présidence, je sais pas moi, réponse aux humains, peu importe.
Non, on parlerait pas.
Hein?
Oui, en fait, ce serait un poste ou une direction qui serait justement dans une entreprise qui serait en mode silo, obligerait un peu les gens justement à instaurer une culture horizontale de tout le monde doit se parler et considérer nos utilisateurs en premier, ce qui n'est pas toujours le cas. Là. Ou du moins, le département marketing n'a pas la même vision des utilisateurs que là, le département de vente ou le département de support à la clientèle. Ce n'est pas les mêmes humains. Ce n'est pas les mêmes personas, bien sûr.
Mais tu sais, écoute,
je pense
j'ai une scène en tête, puis c'est drôle, parce que j'écoutais Mad Men dernièrement. Puis là, Mad Men, c'était dans les années 50, dans les années 60. Puis c'est sûr que ça a été fait dans les années 2000. Mais dans cette émission-là, qui était une agence, on vient au début, qui était une agence de Don Draper et tout, et puis il y avait un département de recherche qui débarquait une fois de temps en temps. Tu sais, dans une émission, tu avais la fille de la recherche qui débarquait et qui disait « Ah, telle cigarette, le monde la perçoive comme ça, comme ça, comme ça. » Puis je trouvais ça intéressant que cette notion de recherche était présente déjà à cette époque-là. Mais c'est pas centré là-dessus, c'était... « Ah, en passant, on va faire un détour par la recherche pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. » C'est un peu la même mentalité ici aussi, dans le sens que si tu mets un vice-président UX, puis que tu dis « Ah, une fois de temps en temps, on va aller voir le UX. » Tu sais, on va aller voir le département de UX pour voir ce qu'ils en pensent. Mais une fois de temps en temps, quand on a un problème, tu n'as pas atteint ta maturité UX. Tu as juste créé un poste ou une espèce de verticale qui, eux, vont s'occuper de ça au besoin. Alors qu'au contraire...
Je citerai Adobe là-dessus. Adobe, ils ont un département UX qui est volontairement horizontal,
exact.
Cross-platform, cross-product.
Exact. Fait qu'il faut plutôt avoir la mentalité Adobe, Disney, que tout le monde est responsable de l'utilisateur. Tout le monde doit penser Disney. Un petit peu à l'utilisateur. Puis je ne dis pas faire des personas puis coller des posters. Puis écoute, j'ai déjà été dans une entreprise où le seul côté UX, c'était le slogan dans l'entrée. Pensez l'utilisateur premier ou un truc du genre. Puis je trouvais ça drôle. J'étais comme, ben voyons donc. Je dis, c'est bien beau le slogan dans l'entrée, mais si le monde ne le font pas en arrière, ça change absolument rien. Fait que, c'est ça que je dis.
Alain, t'as le mot de la fin, Alain.
Ben, c'est intéressant, puis ça me fait penser que si tu regardes dans la très haute direction d'une organisation, je crois que c'est important d'avoir une voix qui s'intéresse à ce qui se passe au plancher des vaches avec les clients, peu importe le rôle. Ce rôle-là va utiliser abondamment des outils qui viennent de l'univers du UX, mais rendu à ce niveau-là dans une organisation, tu n'as pas les mains dans le boui-boui. Fait que ça te prend comme une structure, ça te prend une culture. Puis ce qui est en train de changer et ce qui va changer avec le temps, je crois, je ne sais pas si ça va prendre la forme, en fait, c'est d'un vice-président UX ou whatever, mais c'est plus de mettre en place les moyens pour que ces outils-là soient utilisés, que les résultats soient connus et déployés d'une certaine façon. Et puis, je pense que c'est plus une question de culture qu'une question de nommer quelqu'un dans une fonction.
Oui, oui, on est d'accord là-dessus, tout à fait. Je voulais vous passer cette question. Je voudrais en même temps, messieurs, vous remercier vraiment beaucoup. C'était une belle conversation ce vendredi matin.
Oui, c'est le fun.
Tout à fait, vraiment.
On va remettre ça. Ouais, on va refaire ça.
Merci beaucoup.
Merci et à la prochaine. Merci. Bye.
Bye.